Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Qui était Mabillon. Donc Mabillon était un érudit, était un moine. Il est né en 1632, mort en 1707. Et toute sa carrière, à la fois ecclésiastique et à la fois de savant, se fit sous la protection de Colbert. Pour Colbert, il fait un ensemble de voyages, il fait un ensemble d'inventaires, il fait un ensemble d'acquisitions. Et n'oublions pas que Colbert a créé en 1663 l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui était considérée par Madame de Maintenon en particulier comme la petite académie, et qui s'occupait avant tout de la glorification du roi, de tout ce qui concernait la glorification artistique du roi. Et Mabillon, à la fin de sa vie, en 1701, pour couronner son travail et mettre un terme à toutes les polémiques que nous verrons par la suite, donc fut nommé à cette Académie des inscriptions et belles-lettres. Nous fêtons donc cette année le tricentenaire de sa mort, et aura lieu le 7 et 8 décembre prochain un colloque sur Mabillon. Et pour couronner le tout, ou pour anticiper le tout, Robert Laffont vient de faire paraître un recueil d'œuvres choisies qui s'appelle « Don Mabillon, le moine et l'historien » et qui a le double avantage, un, d'offrir une grosse biographie en tête du volume, fait par Don Henri Leclerc, qui est mort en 1945, et deuxièmement, de donner à lire la plupart ou les principales œuvres de Don Mabillon. Mais de toute évidence, Mabillon, bien qu'il ait une station de métro qui porte son nom, n'a pas la place qu'il mérite. Et pourtant, les restes de Don Mabillon reposent à côté de Descartes, à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, donc à l'église Saint-Germain-des-Prés, et ils furent placés là en 1809. Donc le 19e siècle, débutant, a reconnu pleinement la place de Mabillon comme un historien qui a ouvert les portes d'une certaine modernité. Pour Marc Bloch, donc le grand historien des annales mort en 1944, Mabillon, dans son livre « La diplomatique » de 1681, fonde la critique des documents d'archives et doit être considéré comme tel, comme un précurseur. Et d'autres historiens non moins connus, comme Guizot par exemple, ou Gabriel Monod, qui a été membre de l'Académie française, reconnaissaient lui aussi la force et la valeur de Mabillon. Donc la question se pose de savoir pourquoi s'intéresser aujourd'hui à Mabillon ? Alors, Blandine Kriegel, qui a fait un gros travail sur Mabillon dans sa belle histoire de l'âge classique, le considère, lui, comme un des éléments moteurs de la constitution de l'histoire savante. Alors, elle distingue trois institutions qui, à ce moment-là, ont eu un rôle déterminant. Donc, la congrégation bénédictine de Saint-Maur, dont Mabillon était membre, un membre éminent de cette congrégation. Deuxièmement, l'Académie d'inscription des belles-lettres, dont nous avons parlé, et donc qui accueillera comme membre Mabillon. Et puis troisièmement, le cabinet des chartres. Alors, il est clair que Mabillon est, à cette fin du XVIIe siècle et à ce début du XVIIIe siècle, eh bien à l'origine d'une forme de réconciliation entre la foi et la raison, entre l'érudition et la piété. Il arrive à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1664, il n'a que 32 ans, il y restera toute sa vie, et toute sa vie, il se consacrera à l'étude bénédictine. Alors le point le plus fameux et à la fois le plus intéressant de la vie de Mabillon, et qui est parfaitement illustré et par son œuvre et par sa biographie, c'est donc la querelle qui a traversé sa vie, la querelle donc qui a opposé Mabillon d'une part à l'abbé de Rancé d'autre part. Cette querelle va durer 10 ans. Elle commencera en 1683, date de publication du livre, du premier livre de Rancé, de la sainteté et des devoirs de la vie monastique, et elle s'arrêtera en 1693 par la rencontre et donc la réconciliation entre Rancé et Mabillon à l'abbaye de la Trappe. Et entre-temps, il y aura eu le traité des études monastiques, donc traité écrit par Mabillon et écrit en 1691. Alors, pourquoi s'intéresser à cette querelle ? Parce que, me semble-t-il, elle est extrêmement significative de l'époque et elle donne beaucoup de pistes pour éclairer ces deux tendances qui vont perdurer dans l'Église, d'une part, et dans la société, d'autre part. Alors, Rancet est un noble. Il est né en 1626. C'est un abbé mondain, comme on disait à l'époque, qui a été amoureux de la duchesse de Montbazon. Mais cette duchesse de Montbazon meurt en 1657, et donc un cycle de déception, de crise, d'interrogation va persister chez lui jusqu'en 1663, où il abandonne toutes ses prérogatives, où il abandonne la cour pour ne garder que l'abbaye de la Trappe, qui tombe en ruine, et donc il va réformer la Trappe, d'une part, et deuxièmement, il va instaurer une discipline assez rigoureuse qui met l'accent sur la pénitence. Donc, Rancet est un converti. Il est converti et il insiste sur l'austérité. Sa conception de la vie monastique est donc radicale, avec l'idée de rechercher toujours un détachement le plus grand possible. Pour Rancet, la vie monastique ne peut être qu'une vie de pénitence, qu'une vie d'expiation, pour soi et pour le monde. Pour lui, la vie monastique est, je le cite, « une occupation de Dieu pure et continue, sans distraction de l'esprit et sans partage de cœur. Il suit Jésus-Christ dans une désoccupation parfaite. » Alors cette désoccupation parfaite dont parle Rancet passe par la réhabilitation du travail manuel. Et c'est l'un de ses chevaux de bataille, comme on dit, et l'un des axes principaux de ses livres, relatif à la vie monastique. Je le cite, « Les moines n'ont point été destinés pour l'étude, mais pour la pénitence. Leur condition est de pleurer et non pas d'instruire, et le dessein de Dieu en suscitant des solitaires dans une église n'a pas été de former des docteurs, mais des solitaires. » Pour Rancet, donc, l'étude est contraire à l'humilité. Il oppose le travail manuel, qui, dit-il, rabaisse et humilie, d'une part, et les études qui exaltent l'individu, qui le distrait. Et donc, Rancet se scandalise de ce que, je le cite, « l'étude et l'amour des lettres ouvrent la bouche de ceux qu'il avait consacrés au silence ». Mais cette dénonciation des études, qui concerne certes la Trappe et certes les moines de la Trappe, va plus loin que cette seule réforme de la Trappe. Elle concerne aussi toute la vie monastique. Et c'est pourquoi Mabillon va être obligé de répondre, de riposter, de donner son avis face à cela, considérant que, pour Rancet, Saint-Benoît ne prévoit pas un moment pour l'étude. Et donc, la sévérité de la réforme de Rancet va jusqu'à condamner les études et donc à préférer l'ignorance. Alors Mabillon, lui, qui est un lettré, qui est un moine, qui défend ce sens critique des études, répond dans son traité des études monastiques de 1691. Mabillon, certes, reconnaît que la science a des inconvénients, qu'elle peut causer, je cite, « l'élèvement et l'enflure du cœur », mais, je le cite toujours, « on voit des ignorants superbes et vains aussi bien que des savants ». Cependant, pour lui, l'étude donne plus d'humilité que l'ignorance. Alors, quant au fond, quelles sont les différentes réponses que fait Mabillon à Rancet ? La première, c'est que pour Mabillon, les études sont nécessaires à la vie monastique. Et elles l'ont toujours été. Donc, il va à l'encontre de l'idée de Rancet, suivant laquelle Saint-Benoît et toute la tradition monastique n'auraient pas prêté attention ou auraient peu prêté attention aux études. Et il cite Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand, Saint Bernard, etc. Tous fort bons lettrés et tous fort bons moines. Deuxième point, pour Mabillon, la décadence des ordres monastiques, et ce contre quoi lutte Rancet, vient, dit Mabillon, d'un défaut des études et non pas d'un trop grand amour des lettres. Troisième point, les études sont, dans le christianisme, nécessaires. Et Mabillon insiste là-dessus. Pourquoi ? Car la religion chrétienne est une religion révélée. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas immédiate. Elle a besoin d'être lue, d'être déchiffrée, d'être comprise, d'être méditée, d'être étudiée. Quatrième point, la religion chrétienne est une mémoire. Pour Mabillon, la religion n'est pas, je le cite, comme science humaine, où chacun peut à son gré et selon son imagination et son inventivité, retrancher, ajouter, rechercher. La religion chrétienne doit garder le dépôt de la tradition. Et le dépôt de la tradition, le fait de garder le dépôt de la tradition, doit se faire, peut se faire, grâce à l'étude et à la connaissance de cette dite tradition. Cinquième point, les études sont au service de la justesse du cœur. Pour Mabillon, les moines ont pour but de connaître la vérité et la charité. La fin principale que les solitaires doivent avoir en vue dans leurs études, dit Mabillon, c'est la connaissance de la vérité et de la charité, ou l'amour de la justice. En un mot, dit toujours Mabillon, c'est le règlement de l'esprit et du cœur. Donc, la science, enfin les études, la science, la fréquentation des livres, la science donc est au service de cette charité. La charité du cœur, d'un cœur réglé, qui vit au diapason de l'excellence, de la charité, de la justesse, et qui s'éloigne, autant que faire se peut, de l'ignorance. Mabillon le confirme en disant « La science est cette machine qui, selon saint Augustin, doit servir à l'édification de la charité. » Un monastère n'est donc pas une académie des sciences, Mabillon le reconnaît parfaitement, et dans l'ordre qui est le sien, le nombre des moines lettrés comme lui sont extrêmement limités. Donc, un monastère, quel qu'il soit, n'est pas une académie des sciences, mais il doit permettre de nourrir et de pratiquer les vertus. Que pouvons-nous dire en conclusion quant aux enjeux de Mabillon ? Alors, nous sommes bien là, dans cette période un peu intermédiaire, entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, une période qui est traversée par beaucoup de courants nouveaux et qui vont émerger au moment de la Révolution française. Et donc, il y a vraiment un effet de sismographe, de secousse sismique que l'on est susceptible de pouvoir entendre. C'est la fameuse période de la crise de la conscience européenne telle qu'elle a été étudiée en 1931 par Paul Hazard, membre de l'Académie française. Que dit Paul Hazard ? Il dit que entre 1680 et 1715, et on est en plein dans la période de Mabillon, toutes les idées révolutionnaires qui sont en germe dès maintenant s'exprimeront en 1789. Il y a donc là une période de crise, et je cite Paul Hazard, entre la Renaissance dont elle procède et la Révolution française qu'elle prépare. Nous sommes là donc à une ligne de fracture, un passage entre, disons pour faire vite et pour reprendre les termes de Paul Hazard, une civilisation du devoir, le devoir envers son Dieu, le devoir envers son roi, le devoir envers sa famille, envers son pays, etc., et une civilisation fondée sur le droit et sur la science. Nous sommes donc à un moment de basculement d'une nation qui est organisée en ordre, avec le sens de l'autorité, avec une croyance indéfectible dans les dogmes, avec une fidélité non moins indéfectible dans l'Église, et une nation qui va être traversée de plus en plus par la recherche d'une raison, de la raison qui va travailler à la fois le dogme, à la fois les fidélités, à la fois les croyances. Bon. Et donc ce conflit entre les anciens et les modernes, ce conflit est là, à ce moment-là, où Mabillon lui-même travaille. Et donc Mabillon est confronté à cette défaite progressive de l'érudition de l'Église. Il faut bien se souvenir qu'en 1695, le Carmel va obtenir la condamnation des études bollandistes. Il faut se souvenir que la société des bollandistes, donc une société savante fondée par John Bolland, qui est un jésuite, tente à examiner de près, à regarder dans le détail tous les documents relatifs aux saints. Donc, on est bien dans une approche critique. Et cette approche critique-là va être donc condamnée en 1695. Et n'oublions pas non plus que Fontenelle, lui aussi de l'Académie française, qui mourra en 1757, finit par considérer que l'histoire est du côté de l'éloquence et que l'érudition finit par devenir inutile. Donc on voit bien que des deux côtés, à la fois du côté de l'Église et à la fois du côté des Lumières, une certaine conception de l'histoire, une histoire critique, une histoire examinée de près et battue en brèche. Et donc, ce sens historique critique, lui, est représenté pleinement par Mabillon, finira par disparaître progressivement. De ce point de vue-là, on peut dire que Mabillon est moderne, d'où sa place à côté de Descartes dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. Ou pour le dire autrement, Mabillon donc est le plus ancien des modernes et le plus moderne des anciens. D'où sa position un peu intermédiaire. Ceci dit, ce livre et l'actualité de Mabillon nous intéressent au plus haut point, considérant que nous vivons aujourd'hui, aujourd'hui même, une crise de l'histoire qui est travaillée par ces relents de mémoire, par ces difficultés à pouvoir gérer la mémoire. Et n'oublions pas ce que Valéry disait de l'histoire, qu'elle était le plus dangereux des produits de la chimie que l'intellect a pu élaborer. Puisse Mabillon nous aider à mieux considérer aujourd'hui comme hier la place de l'histoire. Merci.